France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, est né en Grèce un être incroyable. Il était moitié homme et moitié taureau. Ce sont les dieux qui l'ont fait naître. Ils ont obligé une femme mortelle à s'unir à un immense taureau. Cette femme était l'épouse du roi de Crète, Minos. Elle portait le nom magnifique de Pasiphae, la lumineuse pour toutes. Elle était la fille du dieu soleil. Son amant animal, si on peut dire, était un taureau violent et puissant que le dieu de la mer, Poséidon, a fait surgir des vagues de la Méditerranée. Leur union monstrueuse a produit cet être, mi-homme et mi-taureau, le Minotaure. Ce monstre avait une demi-sœur bien humaine, seulement humaine, Ariane, la fille de Minos et de Pasiphae. Fille jeune et jolie, amoureuse, très intelligente et très rusée. C'est elle, l'Ariane du fil d'Ariane. Celle qui a su guider le jeune et beau Thésée dans le labyrinthe où il est allé affronter le Minotaure.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Il y a 10 siècles environ, une créature bizarre est venue au monde. L'enfant d'une terrible passion, il était le fils d'une reine et d'un père taureau. Une créature si monstrueuse que Minos, souverain de Crète, a fait ce labyrinthe pour le cacher aux yeux des hommes. Tous les 7 ans, Athènes devait payer un tribut à la Crète. Tous les 7 ans, Athènes envoyait un bateau aux voiles noires en Crète. 7 jeunes gens à la fleur de l'âge et 7 jeunes filles vierges étaient offerts en sacrifice. On les amenait au labyrinthe, où chaque passage est un faux espoir, chaque entrée une sortie, et où l'insatiable appétit du Minotaure pour la chair humaine ne se calmait qu'à la nuit venue. Pourtant, il y avait une personne qui allait et venait à sa guise dans le domaine de la bête. C'était Ariane, fille de Minos, le roi. Chaque jour, elle rendait visite à la créature, s'occupant d'elle, le cœur rempli de compassion pour ce monstre prisonnier du noir, vivant en reclus avec ses secrets.
Comment c'est possible une telle famille? Qu'est-ce que les Grecs, qui ont inventé cette histoire, essayent de se dire à eux-mêmes? L'histoire du Minotaure, d'Ariane et de Thésée l'Athénien sont protégées, mais qu'une parmi beaucoup d'autres, où mugissaient des taureaux. À l'époque, en Grèce, il y avait plein de taureaux, un peu partout. Enfin, dans les histoires qu'on racontait. Il en fallait beaucoup pour alimenter ces histoires. Il devait avoir de grandes cornes, du feu plein les naseaux, des sabots sonores et menaçants et 1 tonne de muscles. Car dès qu'un jeune mec voulait prouver qu'il était le meilleur, il allait assommer un taureau. Si possible très gros et très méchant. Et il revenait plein de gloire. Il devenait un héros. Quand un dieu voulait séduire, ou plutôt emporter, une jeune et belle fille, il pouvait prendre la forme d'un taureau et s'en aller cavaler avec sa prise. Ou si un dieu voulait prouver qu'il était vraiment très fort, il pouvait faire sortir un gros taureau des flots de la mer, magnifique et impétueux, et tout le monde le craignait et le vénérait. Ou même si un dieu ou une déesse était en colère contre une femme mortelle, il pouvait l'obliger à tomber amoureuse d'un taureau. Elle ne s'en remettait pas et donnait naissance à un monstre. C'est ce qui est arrivé à la pauvre Pasiphae, la mère, malgré elle, du Minotaure. Bref, chez les Grecs, ça bovinait ferme. Le taureau, c'était la force, la beauté, l'énergie, le danger. Tout ce qu'on redoutait, qu'on aimait, ou plutôt que certains aimaient. Fréquenter le taureau, le dominer, c'était montrer sa virilité. C'était établir par la force une hiérarchie entre les êtres. C'était affirmer une supériorité. C'est pour ça qu'il y a plein de taureaux dans les mythes, côté masculin. Et la même fascination pour le taureau continue, encore aujourd'hui, dans les corridas. Les femmes, elles, avaient un autre animal modèle. C'était l'abeille, qui travaille à plusieurs, qui voyage, qui fait le miel, qui est du côté de la civilisation et non de la force brute. Le grand spécialiste du langage, Algirdas Julien Grémas, qui a tellement éclairé pour nous la manière dont les mots produisent du sens, est revenu à la fin de sa vie sur la culture de son pays d'origine, la Lituanie. Il nous a appris qu'il y avait en lituanien 2 manières de dire l'amitié. Il y a l'amitié libre, qui réunit des êtres égaux, pas de la même famille. Amitié qui circule, qui voyage, comme voyagent des essaims d'abeilles, qu'on accueille chez soi, qu'on offre à d'autres. Cette amitié libre égalitaire s'appelle « amitié par les abeilles ». Il y a l'amitié virile, combattante, quand se réunissaient des paysans pour des compétitions de bœufs ou de taureaux. Amitié qui reconnaissait des différences hiérarchiques. L'amitié par les taureaux. Pasiphae, le Minotaure, Ariane, Thésée. Ce mythe mêle étrangement l'univers masculin de la force, type taureau, et l'univers des femmes. Femmes intelligentes qui subissent cette force ou qui rusent avec elle. Les êtres masculins en sortent passablement déstabilisés. Ça vaut le coup d'aller voir.
Cette présence très continue du Minotaure, du taureau, dans la mythologie grecque, comment l'interprétez-vous, Michel Pastoureau ?
Elle souligne l'importance de cet animal, à la fois du point de vue matériel, on lui emprunte beaucoup de produits, on le fait travailler, dans les sociétés anciennes, on attache le taureau à l'arrière, et on attache même l'arrière aux cornes du taureau, avec l'idée que c'est là que se situe la fertilité, les cornes étant en relation avec la lune, dont elles épousent la forme.
On inventera le joug que beaucoup plus tard.
Voilà, pendant très longtemps, le taureau ou le bœuf tire l'arrière, et puis au deuxième millénaire avant notre ère, il pousse au lieu de tirer avec l'invention du joug. Contrairement aux chevaux, aux ânes, aux mulets, le taureau et le bœuf, plus tard attaché à la charrue, poussera au lieu de tirer.
Tout commence loin de la Grèce, en Asie, par une belle manifestation taurine. Une bête merveilleuse apparaît, pleine de force, et en apparence toute douce, jolie, un beau taureau tout blanc et câlin. Ça a lieu sur une plage du pays qui s'appelait la Phénicie, c'est l'actuel Liban, sur le bord oriental de la Méditerranée. Zeus, le chef des dieux, a repéré que la jeune fille d'un roi aimait s'amuser sur cette plage. Cette fille s'appelle Europe. Zeus, comme d'habitude, tombe raide amoureux. Un troupeau de taureaux broutait pas loin. Pour ne pas effrayer la princesse, Zeus abandonne son apparence de dieu de la foudre et du ciel et prend l'aspect d'un taureau version gentil, pacifique. Il s'approche avec douceur. Ovide, le poète latin, raconte la scène de séduction dans son poème « Les Métamorphoses ».
Lui, père et chef des dieux, se mêle aux bêtes, mugit et fait le beau sur les herbes tendres. Sa couleur est de neige, que les traces d'un pied dur n'ont pas foulé, que n'a pas fait fondre l'austère humide. Le cou montre ses muscles. Le fanon descend aux épaules. Les cornes sont petites, c'est vrai, mais on les jurerait faites à la main, plus pures que des gemmes diaphanes. Aucune menace sur le front. Rien d'effrayant dans l'œil. Une tête qui porte la paix. Europe s'étonne qu'il soit si beau, qu'il ne cherche pas la bagarre. Malgré sa douceur, elle a d'abord peur de le toucher. Bientôt, elle approche. Elle tend des fleurs vers la bouche blanche. L'amant se réjouit avant le plaisir espéré. Il donne aux mains des baisers. Il peine à retarder les autres. Maintenant, il s'amuse, saute dans l'herbe verte. Maintenant, il allonge son flanc de neige sur le sable roux. Peu à peu, elle n'a plus peur. Alors, il offre son flanc à la main caressante de la jeune fille. Offre alors ses cornes à entortiller de guirlandes fraîches. Elle ose, la fille du roi, elle ne sait qui elle touche, monter sur le dos du taureau. Le dieu, quittant la terre et le rivage sec, pose d'abord la trace de ses faux sabots dans les eaux, puis plus loin, en plein milieu de l'océan, emporte sa proie. Elle a peur, on l'enlève, elle regarde le rivage qu'elle a quitté, d'une main tient la corne, l'autre est posée sur le dos. Tremblante, sa robe frissonne dans la brise.
Le taureau amoureux emporte la jeune Europe sur son dos, loin de chez elle. Il court sur les vagues et arrive sur une île grecque, la Crète. Pourquoi la Crète ? Pourquoi cette île au milieu de la mer, une terre qui est loin de tout ? Parce que c'est en Crète, bien cachée dans la montagne, que Zeus enfant a été élevé. C'est là, dans une grotte, qu'il a échappé au regard de son père, Cronos, dieu ombrageux et jaloux, qui voulait avaler cet enfant comme il avait avalé tous les autres, pour qu'il ne voie pas le jour et ne le menace pas. La Crète avait été pour Zeus le lieu du salut, de la formation, le lieu qui lui permettra d'accéder au pouvoir et de gouverner le monde, un lieu décisif pour Zeus. en emmenant la jeune Europe en Crète, où il lui fera des enfants royaux et puissants. Zeus rejoue son histoire, mais sur un plan humain et non plus divin. À ses enfants, il donnera la grandeur, le pouvoir. Ils imiteront Zeus, mais en beaucoup moins bien. Ce passage de Zeus par l'Asie, ce retour de Zeus vers le pays de son enfance, avec Europe sur son dos de bête, ont été essentiels pour notre histoire. C'est l'enlèvement de cette princesse asiatique, Europe, cette course sur la mer, puis l'union ou les unions que Zeus imposera à Europe en Crète, qui, selon plusieurs auteurs anciens, donneront son nom à l'Europe en tant que terre différente de l'Asie et de la Libye. Selon cette histoire, nous, les Européens, nous venons tous de très loin, à la course et de force. Cette Europe avait un frère, Cadmos, vous vous souvenez peut-être. Il était parti à la recherche de sa sœur et courut le vaste monde. Apollon, le dieu de la vérité, lui dit d'abandonner ses recherches et de suivre la première vache qu'il rencontrerait. Une vache, pas un taureau. Cadmos voit cette vache, la suit et fonde la ville de Thèbes, en plein milieu de la Grèce, là où la vache le lui indique, une ville terrestre, bien implantée dans le sol. La sœur et le frère, Europe et Cadmos, deux étrangers venus d'Asie, ont ouvert aux Grecs les deux lieux de leur puissance, la mer avec la Crète et la terre ferme à Thèbes. Arrivé en Crète, Zeus prend une autre apparence, laquelle on ne saura jamais, et il s'unit avec Europe. Puis, content, Zeus s'en va et donne Europe à un homme qui était le roi de l'île de Crète. Cet homme l'épouse et élève les enfants de Zeus et d'Europe. Europe accouche de deux ou de trois enfants, ça varie selon les légendes. Ils sont tous fils de Zeus et non de ce mari local. Les enfants s'appellent Minos, Radamante et Sarpedon. Chacun des trois aura une histoire fantastique. Nous suivrons ici celle de Minos, le fils aîné, le père d'Ariane. Que pense Europe de tout ça? Elle n'est pas très contente. Sa vie est une succession de violences. Elle soupçonne son père d'avoir favorisé son union avec Zeus en offrant un beau pâturage au taureau amoureux. La suite n'est pas moins triste. Elle la raconte dans une pièce du poète tragique Eschyle, Europe, pièce naufragée, dont il ne reste que quelques vers. Un papyrus nous en livre plusieurs, prononcés par une Europe vieillie qui fait le bilan de sa vie.
Eh bien, je dirais cette foule de malheurs en peu de mots. Femme humaine unie à un dieu, j'ai perdu l'honneur de la virginité et j'ai été mise au joug commun de la procréation. Trois fois, mon champ fertile a tenu ferme dans les souffrances de la mise au monde et n'a pas refusé de porter à la lumière les nobles semailles de ce père. J'ai commencé par la plus grande des floraisons, la naissance de Minos.
Ici, il manque une ligne ou deux dans le papyrus. La vieille Europe continue avec son deuxième fils, Radamante, qu'elle ne voit plus, car les dieux l'ont immortalisé.
Puis Radamante, le seul de mes enfants qui soit indestructible. Mais il poursuit sa vie loin de l'éclat de mes yeux. Absent, il n'offre aucun plaisir à ceux qu'il aime. Le troisième déchaîne une tempête dans mon esprit, Sarpedon.
Ce troisième fils, Sarpedon, est allé rejoindre les Troyens pour se battre avec eux contre les Grecs. Il mourra dans cette guerre. Europe en a le pressentiment, elle est submergée par la peur. L'union avec Zeus donne la grandeur, la gloire, mais aussi énormément de tristesse.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Dead. Father, please report. My mother read his name, but I cut the stitches from my wound. I bleed his name in vain. 'Cause I'm in
Pierre Judet de la Combe parle de Thésée, d'Ariane et du Minotaure. Ariane est le labyrinthe dont personne n'est jamais sorti.
À la mort de son beau-père, Minos, le demi-dieu, le premier-né d'Europe et de Zeus, devient le roi de la Crète, un roi légendaire. Là, on devient vraiment perplexe. On est devant un vrai problème. Il semble impossible à saisir ce Minos. Était-il bon ? Était-il méchant ? Un sage ou une brute ? Ce qu'on a dit de lui en Grèce est totalement contradictoire. Tantôt, ce roi Minos est présenté comme la sagesse même, le grand chef politique, qui a su établir des lois justes et fermes pour son pays, qui l'a rendu très riche, à qui il a donné un pouvoir énorme sur les mers, sur les terres alentour. Tantôt, il est une brute, injuste, libidineuse et irascible, mais pas très maligne. Il se fait avoir, pas par n'importe qui, évidemment, mais à plusieurs reprises par des Athéniens, qui sont plus astucieux que lui. En racontant ces histoires rocambolesques de Minos, la ville d'Athènes, qui se croyait au centre du monde, pouvait se moquer d'un grand rival, qui était aussi un grand modèle. Il fallait prendre sa place, mais en faisant mieux. Côté grandeur, sagesse politique et réussite, nous avons le témoignage d'Homère. Dans l'Odyssée, Homère dit que la Crète, sous la royauté de Minos, était une île fabuleuse, très peuplée, avec 90 villes, ce qui est énorme. La Crète est pour Homère un monde parfait, total, une espèce de concentration sur une seule île, de toute la puissance de la Grèce, de toute sa diversité. La Crète rassemble des populations d'origines différentes qui parlent plusieurs langues. Cela n'existait nulle part ailleurs en Grèce.
Il y a une terre, la Crète, bien au milieu de la mer couleur de vin. Elle est belle et plantureuse, couronnée de flots. Là, les hommes vivent en foule infinie, dans 90 villes. Les langues des uns et des autres se mélangent. Là, on est achéen, ou on est crétois authentique et grand de cœur, ou kidonien. On est dorien en trois tribus, ou pélage divin. Parmi ces villes, il y a Knossos, l'immense cité.
La réussite de cette île presque miraculeuse est due à Minos, à la relation privilégiée qu'il a gardée avec son père Zeus. Régulièrement, Minos va s'entretenir avec Zeus des affaires politiques. Aucun autre roi grec ne peut prétendre à une telle familiarité divine.
Là, Minos a été roi pendant 9 saisons et confident du grand Zeus.
On dit parfois que pour s'entretenir avec son père Zeus, Minos allait dans la montagne et rejoignait son père dans la grotte où Zeus avait passé son enfance. Un royaume privilégié, cosmopolite, riche et ouvert sur la mer, gouverné par un fils de Zeus qui est en connivence directe avec son père, un âge d'or, unique sur Terre. Ce n'est pas étonnant que même après sa mort, Minos ait continué son travail de bon roi en faisant office de juge dans les enfers. Dans l'Odyssée, Homère raconte que les longues errances d'Ulysse l'ont mené chez les morts. Là-bas, chez Hadès, dans les enfers, Ulysse voit Minos en majesté. Minos règne. Il est brillant, magnifique avec son sceptre.
Et là, j'ai vu Minos, le resplendissant fils de Zeus. Il tenait un sceptre d'or et rendait la justice chez les défunts. Il trônait. Les morts tout autour défendaient leurs droits. Ils étaient assis ou debout dans la maison d'Hadès que ferment d'immenses portes.
Mais ce n'est là qu'un aspect de ce roi. Minos peut aussi être affreux. Les auteurs anciens et même Homère ont aussi accumulé contre lui des jugements extrêmement négatifs, très noirs. Homère dit de lui qu'il avait une pensée mortifère, destructrice. Dans beaucoup d'histoires, c'est lui le méchant, le débauché, un coureur de filles malicieux et cruel. Comment est-ce possible ? Minos est le fruit d'un enlèvement et d'un abus sexuel commis par le roi des dieux. Il est à la fois privilégié, presque divin, et porteur de souillures, de violence, de tromperie. Il est les deux. En fait, Minos est une imitation humaine de son père Zeus. De Zeus, il reprendra l'aspect royal, souverain, efficace dans le gouvernement de sa grande île, où il rassemble des populations humaines variées, où il rend la justice, comme Zeus, sur l'Olympe. Mais de Zeus, il imitera aussi la lubricité, l'érotisme tous azimuts, la fourberie. Il multipliera les conquêtes amoureuses, ou plutôt les tentatives de conquête, les ruses. Mais comme il n'est qu'un homme et pas un dieu, il le paiera très cher et aura une mort plutôt infâme qui ferait rire si ce n'était pas une mort. C'est toute l'histoire de Pasiphae, du Minotaure, puis d'Ariane et de Thésée. Question érotisme, Minos avait un sérieux handicap. Il s'était marié avec la très belle et très lumineuse Pasiphae. Mais comme il n'arrêtait pas de tromper sa femme, Pasiphae lui jeta un sort. Chaque fois que Minos couchait avec une autre femme, sa semence changeait. Elle devenait un flot de scorpions, de serpents et de scolopendres. Cela ne facilitait pas les relations amoureuses. Ses autres femmes ne survivaient pas. Mais un jour, une Athénienne, la belle Procris, passait par là, en Crète. En fait, elle fuyait un mari infidèle. Il se trouve que cette Procris était une passionnée de chasse. Il se trouve que Minos possédait un chien extrêmement rapide qui ne manquait jamais sa proie et un javelot qui allait bien droit. Procris, qui était magicienne, proposa à Minos de le guérir en échange du chien et du javelot. Il accepta. Elle lui donna une drogue qu'elle tenait de la sorcière Circé. Minos la but. Et, vérification faite avec cette Procris, ça marchait. Minos pouvait continuer. Question fourberie et parjure, Minos n'était pas mal non plus. Mais il s'est finalement fait avoir, c'est l'histoire du Minotaure. On raconte que pour affirmer son autorité politique, Minos avait voulu montrer qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait des dieux. Lors d'une cérémonie, il aurait dit que si Poséidon faisait apparaître devant tout le monde un grand taureau, lui, Minos, promettait de lui sacrifier cette bête. Minos fit sa prière à Poséidon, jura. Et le dieu fit surgir des vagues de la mer un immense, un magnifique taureau. Minos fut ébloui. Mais il se croyait plus malin que le dieu. Il décida de garder le bel animal pour lui dans son troupeau et d'offrir à Poséidon une bête plus banale. Le dieu se mit en colère et se vengea d'une drôle de façon. Puisque Minos voulait ce taureau, Poséidon le donna à l'épouse de Minos, sa femme Pasiphae. Poséidon rendit Pasiphae folle amoureuse du taureau. Elle en était malade. Oui, mais comment faire ? Comment Pasiphae peut-elle tromper son mari Minos avec cet animal sauvage et bouillonnant issu des flots ? C'est là que la solution va venir d'Athènes, à nouveau. Il y avait dans la ville de Knossos, la capitale de la Crète, un Athénien qui s'appelait Dédale. C'était un homme très savant, un inventeur, un génie. Il savait construire des machines improbables, imaginer des charpentes, des bâtiments extraordinaires, n'importe quoi. C'était aussi un artiste. C'est lui qui inventait des sculptures de pierre, qui donnait l'illusion du mouvement. Un savant, un architecte, un artisan grandiose. Il trouvait toujours une solution. Il était en Crète parce qu'il fuyait Athènes. Il faut dire que malgré son génie, ou à cause de son génie, il avait été très mesquin et meurtrier. Dédale avait à Athènes un neveu qui était aussi un génie. Ce neveu était entré en apprentissage chez Dédale à l'âge de 12 ans, mais il a vite dépassé son maître. Cet enfant a inventé le tour des potiers, la scie, le compas. Comme il arrive si souvent entre maître et disciple, en science, en art ou ailleurs, le maître, Dédale, est devenu jaloux. Il prend son neveu et le précipite du haut de l'acropole. Dédale est découvert, jugé et doit s'exiler. Il débarque en Crète. Pasiphae connaît sa réputation d'inventeur. Elle lui demande de trouver un moyen technique qui lui permette de s'accoupler avec cette bête énorme qu'est le taureau de Poséidon. Dédale ne recule pas, Pasiphae non plus. Il construit en bois un mannequin de vache qu'il recouvre de peau. Pasiphae se glisse à l'intérieur et subit le taureau. Comme quoi, la nature brute dominé par ses pulsions, celles du taureau, peut-être trompé par de la technique, par de l'artifice, par un semblant de vache construit en bois. Il suffit d'y mettre de l'intelligence habile et inventive. Le taureau n'a pas vu la différence. Il faut dire que pour un grec, il n'y avait pas de différence fondamentale entre la technique et la nature. La technique, l'artifice, pour eux, ne faisait qu'imiter la nature, c'est-à-dire la prolonger et l'aider. Le taureau s'y est laissé prendre. La nature va reprendre ses droits. Pasiphae est enceinte. Puis elle accouche un être étrange, mi-garçon, mi-taureau. On n'avait jamais vu ça. Cette naissance était bien la preuve de l'adultère de Pasiphae et en plus de sa passion ignoble pour un animal. Le mari, Minos, découvre ce qu'a fait sa femme. Il éclate de fureur. Il doit se rendre à l'évidence. Il a été trompé de la manière la plus honteuse qui soit, honteuse pour sa femme, pour lui, pour toute la famille. Il a du mal à comprendre que sa femme, Pasiphae, n'a pas agi de son plein gré. Il a du mal à comprendre que son désir, sa volonté ont été tordus, pervertis par les dieux, par Poséidon.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Dans le grand labyrinthe où je cherchais ma vie, volant de feu en flamme comme un grand oiseau ivre. Parmi les dieux déchus et les pauvres amis, j'ai cherché le vertige en apprenant à vivre. J'ai cheminé souvent les genoux sur la terre, le regard égaré, embrouillé par les larmes. Souvent par lassitude, quelquefois par prière, comme un enfant malade, envoûté par un charme. Dans le grand labyrinthe, allant de salle en salle, de saison en saison, et de guerre en aubade. J'ai fait 100 fois mon lit, j'ai fait 100 fois mes mâles, j'ai fait 100 fois la valse et 100 fois la chamade. Je cheminais toujours les genoux sur la terre, le regard égaré, embrouillé par les larmes. Souvent par lassitude, quelquefois par prière, comme un enfant rebelle qui dépose les armes. Mais un matin tranquille, j'ai vu le Minotaure qui me jette un regard. Comme l'on jette un sang. Dans le grand labyrinthe où il cherchait sa vie, volant de feu en flamme comme un grand oiseau ivre. Parmi les dieux déchus et les pauvres amis, il cherchait le vertige en apprenant à vivre. Il avait cheminé les genoux sur la terre, le regard égaré, embrouillé par les larmes. Souvent par lassitude, quelquefois par prière, comme un enfant rebelle qui dépose les armes. Dans le grand labyrinthe de soleil en soleil, de printemps en printemps, de caresse en aubaine. Il a refait mon lit pour de nouveaux sommeils, il m'a rendu mes rires et mes rêves de reine. Dans le grand labyrinthe de soleil en soleil, volant vers la lumière comme deux oiseaux ivres. Parmi les nouveaux dieux et les nouveaux amis, on a mêlé nos vies et réappris à vivre.
Pierre Judet de Lacombe raconte Ariane et le Minotaure. Pourquoi les dieux ont-ils fait naître un être mi-homme, mi-taureau ?
Une tragédie d'Euripide, encore une tragédie naufragée, dont nous ne lisons que quelques bribes, met en scène ce Minos en colère. Il vient d'apprendre la naissance de cet enfant bizarre. La pièce fait entendre surtout une défense très argumentée de Pasiphae. Cette tragédie s'appelle « Les Crétois ». Minos cherche à savoir à quoi ressemble cet enfant improbable. Il interroge la vieille nourrice de Pasiphae.
« Je veux apprendre de toi comment il est. »
« C'est un mélange de deux natures, d'un taureau et d'un mortel. »
« Ça, je l'avais déjà entendu. Mais comment est-il en vrai ?»
Il porte posée sur sa poitrine une tête de taureau.
Il avance sur 4 pattes ou avec 2 pieds ?
2 pieds, ombragés de poils noirs.
Et qu'est-ce qu'il a d'autre ?
Une queue qui chasse l'aiguillon des temps.
Il est au sein d'une mère ou d'une vache ?
Ses parents le nourrissent.
Minos veut se venger. Il ne cache pas le déshonneur de sa femme. Il veut se montrer offensé, lui le roi. Il dit à tout le monde quel enfant horrible elle a engendré. Pasiphae s'insurge, proteste. Elle lui rappelle que c'est lui, Minos. qui est à l'origine de tout cela. C'est lui qui a trompé Poséidon en ne voulant pas immoler le taureau, comme il l'avait juré. Les Crétois essayent de calmer leur roi, mais rien n'y fait.
J'affirme qu'aucune autre femme n'aurait osé ce crime.
Mais toi, Seigneur, évite le désastre. Pense à bien cacher toute l'histoire. En niant les faits, je ne te convaincrai pas, car ce qui s'est passé est désormais totalement clair. Si j'avais de moi-même livré mon corps à un homme, si je m'étais offert en douce un plaisir d'Aphrodite, on aurait toutes les raisons de faire de moi une débauchée. Mais c'est une attaque des dieux qui m'a rendue folle. Je souffre, mais pas d'un mal voulu. Ça n'aurait aucune apparence. Voir un bovin m'aurait mordu le cœur de la maladie la plus ignoble. Était-il splendide, beau à regarder à cause de ses vêtements, à cause du feu de ses cheveux? L'éclat de ses yeux illuminait-il chez lui un menton chatoyant des belles couleurs du vin? Mon jeune amant n'avait pas cette grâce dans le corps. Ce lit d'amour, j'ai dû y ramper, caché dans une peau de vache à même le sol. Et j'aurais fait de lui mon mari, l'auteur de mes enfants. Non-sens. Mais alors pourquoi étais-je malade d'une telle folie? Le mauvais démon de Minos m'a rempli de malheur. Mais lui, plus que moi, portera son poids de souffrance. En effet, il avait fait le vœu d'immoler pour le dieu de la mer le taureau prodigieux qui apparaîtrait devant lui. Mais il ne l'a pas fait. Pour cette raison, Poséidon ne t'a pas lâché et te fait payer ta faute. Mais c'est sur moi qu'il a jeté la maladie. Et toi, tu hurles, tu en appelles au dieu, toi qui as tout fait, qui m'as déshonoré. Moi, mère d'un monstre sans en être la cause, j'ai dissimulé ce coup démoniaque qu'un dieu m'a porté. Et toi qui sans doute trouvais la beauté et joli spectacle, toi le plus abruti des hommes, comme si tu n'avais rien de commun avec ta femme, tu as divulgué cette histoire devant tout le monde. C'est toi qui m'as anéanti. La faute est tienne. Le mal dont je souffre vient de toi. Et en plus, tu veux me tuer et me jeter à la mer. Eh bien, tue. Tu t'y connais en saleté meurtrière, en égorgement d'hommes. Ou bien tu désires dévorer ma chair toute crue? Tu peux, ne te prive pas de ce régal. Femme libre, coupable de rien, je mourrai en châtiment de ton crime.
Aux yeux de la plupart des hommes, ce mal est envoyé par un dieu. Freine ta colère, Seigneur.
Un bâillon sur sa bouche, elle crie. Vite, venez, garde. Prenez la criminelle, qu'elle ait une mort comme il faut, elle et sa vieille nourrice. Conduisez-les dans la maison, bien enfermée dans un cachot, que plus jamais elle ne voit le cercle du soleil.
De la retenue, Seigneur, l'affaire mérite réflexion. La hâte n'amène pas de bonnes décisions chez les hommes.
Mais c'est décidé, je ne remettrai pas la punition.
Le parchemin s'arrête là, malheureusement. On ne sait pas ce qui arrive à Pasiphae. Minos se résigne à cacher le jeune enfant, à qui on a donné le surnom de Minotaure, comme si cet enfant avait quelque chose à voir avec lui. Minos trouve une cachette extraordinaire pour ce monstre troublant, qui n'est ni homme, ni animal, un être confus, déroutant. Il va lui trouver une cachette qui lui ressemble, qui sera aussi troublante, aussi indémêlable que lui. Ce sera le labyrinthe, cette grande construction confuse dont on ne peut pas sortir. Minos va profiter de la présence à Knossos de Dédale l'Athénien, l'inventeur habile. Il lui demande de construire un bâtiment d'un type tout à fait nouveau. Un bâtiment inextricable, complexe, plein de détours, de surprises, qui sera la plus étanche des prisons. Ce labyrinthe est une suite de couloirs infinis qui tournent et reviennent sur eux-mêmes. Ils imitent le flux et le reflux de la mer. Ce sont des chemins innombrables où on se trompe tout le temps, où il n'y a pas de repères. Le labyrinthe imite toutes les incertitudes de la vie humaine, ballottées par les dieux, incertaines. Les dieux ont voulu qu'il y ait cet être monstrueux, le Minotaure. Minos relève le défi et fait construire un ouvrage qui enferme, qui fixe une fois pour toutes cette monstruosité imprécise. La prison sera aussi bizarre, aussi complexe que son prisonnier. Le pauvre Minotaure est alors jeté dans ses murs, sans pouvoir sortir.
Georges Luis Borges.
J'ai deux ou trois cauchemars préférés, non, plutôt des cauchemars qui me préfèrent ou qui me poursuivent. Il y a toujours un cauchemar qui se répète. C'est le cauchemar du labyrinthe. Cela peut prendre mille formes. Par exemple, je suis dans une chambre quelconque, disons dans cette chambre. Alors, je me sens vaguement incommode, je veux sortir, Et la chambre d'à côté, c'est la même chambre répétée.
Est-ce que le labyrinthe n'est pas aussi une sorte de symbole de l'absurdité du monde, qui se répète sans finalité et qui n'aboutit à rien?
Oui, mais en même temps, si nous étions sûrs que le monde était un labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a un ordre secret, cela serait une grande chose pour nous. Cela serait très important. On n'est pas sûr que ce soit un labyrinthe. Le labyrinthe serait un cosmos caché. Tandis que peut-être le monde n'est que le chaos, non, que le désordre.
Le temps passe. Le Minotaure se morfond dans sa cachette. Mais un jour, tout va basculer encore à cause d'un Athénien, un autre Athénien. Le très jeune et très beau Thésée, fils du roi d'Athènes, Égée. Un héros promis à un avenir plus que brillant. Thésée va devenir le grand héros national d'Athènes, grand roi, grand politique, grand aventurier et grand séducteur. En fait, il va devenir à Athènes ce qu'était Minos en Crète, mais en mieux, en moins fou, enfin. C'est ce que pensent les Athéniens.
Je te remercie, Seigneur, d'avoir accueilli un étranger.
Les exploits de tes nombreuses aventures sont connus du roi. Tu as tué les géants, paraît-il, et on dit que tu es la terreur des brigands.
J'ai voulu que les chemins entre mon pays et Athènes soient sûrs pour les voyageurs.
Où est ta terre, jeune homme ?
Elle est à Trézène, à l'ouest.
Trézène ?
Monseigneur a le cœur confiant, et je le préviens en tant que prêtresse et en tant que mère de ses héritiers, qu'il se montre réservé envers ceux qui arrivent, les mains recouvertes de sang.
Je cherche la purification auprès du roi.
Naturellement.
Quel est ton nom, guerrier ?
Thésée, mon roi.
Quel est ton lignage ?
Mon père, pour certains, vient des océans, et pour d'autres, c'est un grand roi.
Les relations entre Minos et Athènes étaient plus que tendues. Si le jeune Thésée a débarqué en Crète avec 7 jeunes filles et 6 jeunes gens, c'était pour un rite horrible et cruel. Ces jeunes filles et ces jeunes gens devaient être lâchés dans le labyrinthe. Ils ne devaient pas en revenir. Ils étaient offerts au Minotaure qui allait les manger. Minos venait en personne à Athènes pour apporter cette jeune cargaison vouée à la mort. Les Athéniens étaient obligés de lui livrer cette jeunesse en raison d'un pacte. Encore une histoire de taureau. Les Athéniens devaient payer une immense faute commise par le roi Égée, le père de Thésée autrefois. Un jour, il y a longtemps, le fils de Minos, un certain Androgeos, était venu à Athènes pour participer à des compétitions sportives. Il gagnait éhontément. Le roi d'Athènes, Égée, était en colère contre lui. Égée avait peur que ce jeune blanc-bec, ce crétois, si fort, si enthousiasmant, ne s'allie à ses ennemis politiques, qui étaient menaçants. Égée décide donc de le supprimer. Selon une légende, il lui propose de défier un affreux taureau, féroce et puissant, qui ravageait la côte de l'Attique à Marathon. Mais Androgeos échoue. Il se fait tuer par la bête. Selon une autre tradition, ce sont les Athéniens qui ont tué le jeune homme. Minos décide de venger la mort de son fils. Écoutons le récit que fait l'écrivain Plutarque dans son histoire de la vie de Thésée. C'est le texte le plus précis que nous ayons. Ce Plutarque a été traduit à la Renaissance par Jacques Amyot, la langue du XVIe siècle de ce traducteur, et je trouve tellement belle que j'ai envie de vous la faire entendre, un tout petit peu modernisée.
Androgeos, fils aîné du roi Minos, fut aussi en trahison dans le pays de l'Attique, à raison de quoi Minos, poursuivant vengeance de cette mort, fit la guerre fort âpre aux Athéniens et leur porta beaucoup de dommages. Mais outre cela, les dieux encore persécutèrent et affligèrent fort durement tout le pays, tant par stérilité et famine que par pestilence et autres maux, jusqu'à faire tarir les rivières. Ce que voyant, ceux d'Athènes recoururent à l'oracle d'Apollon, lequel leur répondit qu'ils apaisassent Minos, et quand ils seraient réconciliés avec lui, que l'ire des dieux cesserait aussi contre eux, et leur affliction prendrait fin. Aussi, ceux d'Athènes envoyèrent un continent auprès de lui et le requirent de paix, laquelle il leur octroya, sous condition que l'espace de 9 ans durant, il serait tenu d'envoyer chaque an en Crète, par forme de tribu, 7 jeunes garçons et autant de jeunes filles.
Puis Plutarque cite une tradition qu'il trouve trop invraisemblable.
Or, jusqu'ici, tous les historiens sont bien d'accord. Mais pour la suite, non. Et ceux qui semblent s'éloigner le plus de la vérité racontent que quand ces jeunes gens étaient arrivés en Crète, on les faisait dévorer par le Minotaure, dans le labyrinthe, ou bien qu'on les enfermait dans ce labyrinthe, et qu'ils y allaient errant ça et là, sans pouvoir trouver issue pour en sortir, jusqu'à ce qu'ils y mouraient de mâle faim.
C'est cette version qui est devenue la plus célèbre. Le bateau qui amenait en Crète les jeunes gens d'Athènes avait une voile noire. Les Athéniens savaient qu'il n'y avait aucun espoir de retour pour eux. Minos vient à Athènes, pour la troisième fois, emporter son dû. Les Athéniens commencent à se révolter contre Égée. Après tout, c'est lui qui est responsable de la mort du fils de Minos.
Les citoyens d'Athènes commencèrent à murmurer contre Égée, alléguant pour leur grief que lui, qui avait été cause de tout le mal, était seul exempt de la peine. Ces justes doléances des pères à qui l'on ôtait les enfants perçaient le cœur de Thésée, lequel, se voulant soumettre à la raison et courir la même fortune que feraient ses citoyens, s'offrit volontairement à y être envoyé. Ceux de la ville estimèrent grandement la noblesse de son courage et l'aimèrent singulièrement pour l'affection qu'il montrait avoir à la communauté.
Thésée s'embarque donc avec 6 autres jeunes gens et avec les 7 jeunes filles. Un espoir renaît. Égée, le père de Thésée, donne alors au pilote du navire une voile blanche qu'il devra hisser au retour si Thésée a pu vaincre ce Minotaure et ramène les jeunes gens sains et saufs.
Sinon qu'il mit la noire pour lui montrer de tout loin son malheur.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Depressione, di ipocondria o di delusione, di odio sociale, di rassegnazione o di religione. Per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, di male d'amore o un colpo di sole.
Pierre Judet de Lacombe raconte Thésée et le labyrinthe. Comment ne pas s'y perdre ?
Tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chanvre se dérouler derrière toi. Il guidera tes pas au retour. Continue d'avancer en descendant. Et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras la bête.
Pourquoi fais-tu ça pour moi?
Parce que le sort jeté sur Athènes menace aussi la Crète. Et à cause de ta façon de me regarder.
Comment est-ce que je te regarde?
Comme ceci. Et comme cela.
Pour quelle raison désires-tu la mort du Minotaure?
C'est la honte de ma famille. Et c'est une honte pour moi. Et puis quelle vie a-t-il dans le noir, sans amour? Ne m'en demande pas plus. Alors va, va et tue la bête.
Les jeunes Athéniennes et Athéniens débarquent en Crète. Malheureusement, nous n'avons pas de grands récits poétiques qui nous racontent ces aventures. La rencontre de Thésée et d'Ariane, le combat avec le Minotaure, le départ pour la Grèce. Il faut s'en remettre encore une fois à Plutarque, qui est très succinct. C'est souvent comme ça. Les mythes les plus connus, les plus populaires encore aujourd'hui, comme celui du fil d'Ariane, de la lutte avec le Minotaure, sont ceux pour lesquels on a en fait le moins d'informations. On peut broder. Plutarque est très sobre dans son récit.
Au reste, quand Thésée fut arrivé en Crète, il y tua le Minotaure, ainsi que la plupart des auteurs anciens l'ont écrit, avec le moyen que lui procura Ariane, laquelle, étant devenue amoureuse de lui, lui donna un peloton de fil, à l'aide duquel elle lui enseigna qu'il pourrait facilement sortir des tours et des tours du labyrinthe. Et ils disent qu'ayant oxy le Minotaure, il s'en retourna d'où il était parti, emmenant avec lui les autres jeunes enfants d'Athènes et Ariane aussi. L'historien Phérécide dit davantage qu'il brisa et gâta les quilles et carènes de tous les vaisseaux de Crète afin que l'on ne les pût soudainement poursuivre.
Alors Thésée, le héros, ouvrit la grande porte donnant sur le labyrinthe. Il comprit tout de suite que la bête pouvait le sentir, car telle une araignée noire aux aguets, elle pouvait sentir le plus infime mouvement dans son énorme et complexe toile. Thésée se figea. Entendait-il les battements de son cœur? Ou étaient-ce ceux de la bête? La puissance d'un taureau, la ruse d'un homme. Il connaissait chaque centimètre de son domaine. Où Thésée allait, il connaissait un autre chemin, apparaissant soudain, détruisant les passages, enragé, sauvage, affamé.
Le succès est complet pour Thésée et les Athéniens. Minos est défait. Il ne pourra plus rien réclamer à Athènes. Thésée est en gloire. Et en plus, il emporte sur son bateau la fille du roi, la fille de Minos et de Pasiphae, l'extraordinaire Ariane, qui l'a aidée et l'a suivie par amour, abandonnant toute sa famille. Tiens, tiens, ça rappelle l'histoire de Médée qui aide Jason, histoire qui finit mal. Cette histoire d'Ariane et de Thésée sera-t-elle vraiment heureuse? Pas vraiment. Il y a en fait beaucoup de ressemblances entre Minos et Thésée, et Ariane en fera les frais amèrement. Le retour en Grèce ne sera pas un grand bonheur pour Thésée. Nous verrons cela la semaine prochaine, si vous le voulez. Mais auparavant, parlons de la fin du grand roi Minos. Elle résume bien sa vie. Minos est furieux contre son architecte Dédale l'Athénien. Il l'accuse d'avoir facilité la fuite de Thésée avec Ariane et les jeunes gens d'Athènes. Il n'avait pas tort. D'après plusieurs auteurs, c'est Dédale qui a fourni à Ariane la pelote de fil qui a sauvé Thésée dans le labyrinthe, en lui permettant de retrouver son chemin. Dédale, l'Athénien, se sentait solidaire de Thésée, qui venait d'Athènes. Furieux, Minos enferme Dédale dans son chef-d'œuvre, dans le labyrinthe, avec son fils, Icare. Dédale savait que même lui, le constructeur, ne trouverait pas la sortie. Il n'y avait qu'une solution, sortir par le haut. Le labyrinthe était à ciel ouvert. Inventif comme toujours, Dédale trouve le moyen de fabriquer des ailes, deux paires, pour lui et pour son fils. Avec du lin et de la cire, il attache des plumes, en les rangeant bien en ordre, de la plus petite à la plus longue, comme une flûte de pan. Il les incline, les courbe, pour qu'elles prennent bien le vent, et il attend la brise. Il s'attache à cette machine totalement neuve, y attache son fils. Et dès que l'air commence à bouger, il part dans les courants du vent. Il dit à son fils de voler à mi-ciel, pas trop près de l'eau, pour ne pas alourdir ses ailes, et pas trop haut, pas dans les parages du soleil, pour que la cire ne fonde pas. On connaît la fin de l'histoire. Le père et le fils quittent la Crète, avancent dans les airs, dépassent les Cyclades. Mais Icare ne suit pas les conseils de son père. Il éprouve trop de plaisir à flotter en haut. Il a un désir de ciel. Son vol devient fou. Il s'approche du soleil et la cire se met à fondre. Icare perd ses ailes, agite des bras nus, crie et tombe dans la mer. Dédale est affligé. Il erre sans fin dans les pays grecs et se retrouve en Sicile, chez le roi Kokalos, qui l'héberge. Minos part à sa poursuite. Il le cherche partout et arrive lui aussi en Sicile. Il soupçonne ce roi Kokalos d'avoir accueilli Dédale, mais il n'en est pas sûr. Pour en avoir le cœur net, il le soumet à une épreuve. Il lui montre un beau coquillage en spirale. Il le met au défi d'y faire passer à l'intérieur un fil de lin. La récompense sera immense s'il y arrive. Le roi sicilien accepte le défi. Il prend le coquillage et bien évidemment, il va au fond de son palais et le montre à Dédale. Comme on peut s'y attendre, Dédale trouve la solution. Il va rejouer en miniature le truc du fil d'Ariane dans le labyrinthe. Dédale attache le fil de lin à une fourmi et laisse la fourmi trouver son chemin dans les spires du coquillage. Le tour est joué. Pour Minos, c'est bien la preuve que Dédale est chez ce roi. Il le supplie de lui livrer Dédale. Le roi Kokalos fait semblant d'accepter et propose d'abord à Minos d'être son invité. Et pour cela, de prendre un bon bain. Mais c'est la fin de Minos. C'était un piège. Les filles du roi font entrer Minos dans une baignoire et le noient dans un flot d'eau bouillante. Une légende dit que Dédale, l'ingénieur, leur avait conseillé de placer une conduite cachée au-dessus du bain et d'y déverser soudainement de l'eau en ébullition. La technique, encore une fois, a vaincu. Dédale avait inventé mieux que l'eau tiède. Comme quoi, ça ne sert pas toujours d'être un fils chéri de Zeus. Mais Thésée l'Athénien aussi sera victime de ses prétentions.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.